When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hello, c'est parti pour le 61e épisode de ton podcast initiatique préféré, Spiritualista. Mon invité dans cet épisode a intégré la Star Academy en 2005. Il a même fini finaliste. Et depuis 2006, il représente le Roi Lion dans la comédie musicale de Disney. Ensemble, on a parlé de création, d'inspiration, de manifestation. On a aussi parlé de la discipline qu'il faut, la préparation mentale quand tu montes sur scène 9 fois par semaine. On a évoqué le sens spirituel, ésotérique et symbolique du Roi Lion. On a aussi abordé le sujet de la santé mentale, de la vulnérabilité et le fait de toujours croire en son destin. Voilà, je te souhaite une merveilleuse écoute en compagnie de Jean-Luc Guizon et de moi-même.
Alors déjà, Jean-Luc, bonjour et bienvenue dans Spiritualista. C'est un honneur d'accueillir le Roi Lion.
Ouais, l'un des membres du Roi Lion, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai cette couronne et ce poids de l'armure sur le dos depuis plusieurs années maintenant. Merci pour cet accueil et merci pour ton invitation. Je suis très touché d'être avec toi, Amel.
Je suis honorée parce que, tu sais, cette troisième saison de Spiritualista est tournée autour des artistes, de la création, de l'inspiration, du lien au divin, au sacré. Et justement, on en parlera tout à l'heure, le fait d'endosser cet archétype hyper puissant du Roi Lion, ça te permet aussi de te connecter à des vertus qui sont incroyables, qui sont divines, on peut le dire.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce message qui est très fort à travers ce spectacle du Roi Lion, qui joue depuis 25 ans pour donner un petit peu de chiffres et qui a été vraiment traduit dans toutes les langues et qui ne cesse d'émouvoir, de saisir, de transformer la vie des gens. Moi, c'est un spectacle, je n'ai pas peur de le dire, qui a changé ma vie et qui continue de le faire, quoi. De par son message, je pense qu'il se veut déjà très humain, mais aussi intergénérationnel, spirituel. C'est vraiment cette trajectoire de ce jeune lion. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire, on la connaît tous. Mais il y a vraiment ce parcours initiatique de ce jeune lion appelé Simba, et à travers lequel, j'ai l'impression, on peut tous se situer, se retrouver, à un moment donné ou à un autre, quoi, dans nos différents chapitres de vie.
Totalement, mais en préparant l'émission, vous verrez... Dans l'épisode, je vous mettrai plein d'extraits de Jean-Luc notamment, et Il vit en toi.
Ah ouais?
Ah, et ce matin...
Tu chantes juste, au moins, rassure-moi.
Wow, non, mais c'est toi qui vas chanter. Et puis les extraits, ce sera pas moi. Dieu merci, tu vois. Je vais encore conserver mes auditeurs et mes auditrices, tu vois. Non, mais vraiment, mais Il vit en toi, genre, j'ai réécouté ce son avec un nouveau regard.
Yes.
Et ça m'a transpercé le cœur, en fait.
Yes.
Parce qu'en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une constellation familiale où tu travailles sur le transgénérationnel, le lien aux ancêtres. et tout ça.
Ah, mais tu es dedans.
Ah, mais
Ah, tu es
totalement.
dedans. J'ai ce passage du spectacle où donc Mufasa revient en tant qu'esprit, en tant que voix. Donc physiquement, moi, ça se traduit par un appel micro tous les soirs où Mufasa est demandé, donc je redescends au niveau de stage et où chaque soir, je suis donc... alors ça dépend... à gauche ou à droite de la scène en fonction, puisque comme on tourne actuellement, voilà, les installations sont différentes. Mais je me reconnecte donc avec le comédien qui interprète mon fils, Simba, à l'âge adulte. Et j'ai ce petit micro où j'ai possibilité d'avoir donc vue sur lui directement. Lui ne me regarde pas, mais ma voix est chaque soir live où je lui explique que je suis connecté à toi. Je suis là, tu es avec moi, je vis en toi, on est ensemble. Et... ressaisis-toi quelque part parce que tu as perdu confiance en toi, tu as perdu ta lumière, tu as perdu l'essence même de qui tu es, de ce que tu es et de quelle est ta mission. Ressaisis-toi. Tu ne me vois pas physiquement, tu ne me touches pas, mais je suis là. Et je t'en parle. Non, ne pleure pas. Mais je t'en parle et les auditeurs ne pourront pas le voir. Je t'en parle. J'ai un courant électrique qui me traverse parce que c'est très fort. Ouais. C'est un message très fort qui est tellement humain, qui est tellement spirituel. Tu as employé les mots justes à ce sujet. Et petite anecdote d'ailleurs, c'est que moi, sur ce passage-là, chaque soir, j'ai beau avoir le micro installé de façon à avoir un œil sur ce qui se passe sur scène, eh bien, figure-toi que j'ai les yeux fermés. J'ai les yeux fermés chaque soir, au moment où je fais cette voix off et où je m'adresse à Simba, parce que les yeux fermés, eh bien, j'ai le sentiment de voir davantage.
Oh, waouh, t'es dans une sorte de transe, en fait.
Complètement.
T'es habité
complètement.
Tu le fais.
Ouais. J'ai les yeux fermés et j'ai ce micro devant la bouche et je lui parle sans avoir nécessairement besoin de le regarder.
Simba, tu m'as oublié.
Non. Jamais.
Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Simba. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie.
Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir.
N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas qui tu es.
Non, père, ne me laisse pas.
N'oublie pas.
J'ai besoin de toi.
Dieu.
Ne me laisse pas.
N'oublie pas.
Est-ce que tu sens l'émotion qui traverse la salle au moment où tu...
Indescriptible.
Ouais.
Parce que ce passage-là est iconique.
Il est...
C'est iconique.
Mais puissance
on l'a tous cette image, alors que ce soit le
ça
dessin animé de 94 ou que ce soit le dernier où ils ont invité les stars, les guests de 2019, le Animation Movie, cette séquence-là, elle est iconique. On a tous, voilà, ce nuage, cette espèce d'esprit au-dessus de Mufasa qui réapparaît et qui vient expliquer à Simba, souviens-toi qui tu es mon fils et le seul vrai roi.
Waouh. Non mais en plus là juste à côté de toi on est dans ton home studio et il y a une grande affiche avec toi en roi lion et t'es juste à côté, tu vois, et
ça fait pas trop ego trip?
Non, parce que c'est ton espace de travail, tu vois, c'est là où t'as tes récompenses, où t'as c'est chouette, je trouve, c'est chouette, c'est comme un sanctuaire artistique.
C'est ça, c'est ça. C'est un peu mon rêve, tu sais, d'avoir un jour une pièce vraiment dédiée, alors elle l'est en partie celle-là, mais vraiment dédiée presque comme un mausolée, une espèce de musée. Il faut savoir que, alors je me raconte un peu sans prétention.
C'est
mais
ton épisode, j'étais là pour ça. C'est
toujours un peu difficile hein, de faire ce travail d'introspection, mais voilà, j'ai eu cette chance d'être sur scène et de jouer ce spectacle dans plusieurs productions, plusieurs langues, et j'ai gardé à chaque fois plusieurs petits trucs, tu vois, les signatures, les
parce
programmes,
que c'est la preuve de ta manifestation, donc
c'est ça,
c'est réel.
C'est ça, c'est réel, ouais. C'est réel. Et donc, je suis vraiment de ce profil à garder une mèche de je sais pas quoi, de costumes, de perles, de programmes, de... Vraiment, je me fais presque embrouiller. Hein.
C'est vrai.
Ah oui, dans ma vie de couple de tous les jours, c'est à un moment donné, quand vient le moment de faire les, tu sais, les cartons, les
quand tu gardes
de dépoussiérer
ton
les choses...
Ton 20e masque du royaume, tu vois.
Ça fait lourd.
Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai, pour revenir à ce que je disais, ce projet, un jour, on verra si la vie nous l'accorde, d'avoir vraiment cette espèce de petit musée, quoi. Une petite pièce consacrée vraiment à voilà, cette décennie et qui dure encore, hein, tu vois, de Roi Lion et de tous ces souvenirs récoltés à travers les différentes stages qu'on a pu fouler, quoi.
On parlait du pouvoir de la manifestation.
Oui.
Alors, toi, Jean-Luc, 2005, moi j'étais devant ma télé quand t'étais dans la Starac.
Arrête.
T'as chanté avec Stevie Wonder, ouais, t'as chanté avec qui ? Vas-y, drainons-nous les légendes.
Ouais, la légende, c'est ça, les légendes encore vivantes. Certaines nous ont quittées. Mais voilà, oui, Stevie, comme tu l'as dit, Mariah Carey.
Waouh. Il y a Madonna. Il y a
Madonna.
Il y a Madonna, mais Madonna, bien sûr.
Johnny Hallyday, paix à son âme. Wow. Céline Dion. Shaggy, Annie Cordy, paix à son âme, alors c'est un autre dingue. Registre, mais elle a été tellement touchante, cette petite dame, qui est d'ailleurs, Annie Cordy, à l'initiative même du théâtre musical, hein, tu sais, du musical,
ça m'étonne pas.
En fait, c'était une meneuse de revue, cabaret,
salade de fruits.
Exactement.
C'est ça?
Exactement.
Ouais. Donc, ça te surprend que tu
connais. Ouais, non, mais t'as fait très fort parce que c'est exactement ça. Meneuse de revue, un peu comme dans la lignée des Lynn Renault. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, qui
c'est
chantait, qui dansait. Exactement, exactement.
C'est des showgirls, c'est incroyable.
Ouais, complètement.
Et donc là, Starac, 2005.
2005, ouais. Waouh, tu me ramènes à loin, là.
Comment? Parce que je pense que ton pouvoir de manifestation dans la création, il est quand même incroyable. Comment t'as manifesté ça? Parce que c'était huge, c'est TF1, c'est des primes, c'est des audiences incroyables, tu vois.
C'est
en
vrai.
Plus, t'arrives, t'es en finale.
C'est vrai.
Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler des coulisses de cette manifestation?
2005, je suis papa déjà de deux, mais tellement accroché à la musique, à l'envie d'être sur scène. Vraiment, je ferme les yeux et je suis devant une foule de personnes à chanter mes propres chansons, à pouvoir vivre de ma musique, mais surtout transmettre et véhiculer toutes les émotions et tout ce qui me traverse. Donc vraiment cette envie de se projeter dans ce qui me fait vibrer, quoi. Je vais te dire quelque chose que tu auras du mal à croire, mais en dehors d'être sur scène, j'ai presque le sentiment de servir à rien. De ne pas savoir comment penser, comment agir, comment réparer, comment parler, comment être utile et intéressant dans mon entourage, que ce soit amical ou familial. Et ce besoin d'être sur scène et donc d'être enfin en phase, je le vois dès que je cligne de l'œil. Ça me crie dans la tête, ça me brûle, ça me bouscule et je fais tout ce qui est possible et imaginable à l'époque, en 2005, et même bien avant, parce que 2005, c'est le moment où ça pète.
Ouais.
Mais tu sais, c'est comme cette fameuse image de l'iceberg, en fait. Nous, humains, on n'a que la petite partie qui est visible à l'œil nu et qui, voilà. Qui...
Ouais, parce que toi, avant la Starac, t'es entre autres dans la chorale We Are One.
Ah oui,
c'est vraiment une chorale hyper respectée dans le monde de la musique.
Tu peux même remonter à ma vie de famille quand je suis enfant. Voilà, mes parents sont dans la musique, on est à l'église tous les dimanches, il y a la chorale de l'église, il y a les bandes de l'église où je suis déjà amené très jeune à chanter, à composer, à travailler mon oreille musicale depuis ma naissance.
Ouais, la musique fait partie de ta vie.
Complètement, ouais, c'est ça. J'ai grandi à Mel dans une famille musicale, et où très tôt, j'ai cet appel, j'ai ce sentiment d'être à ma place dès que ça chante, dès que ça groove, dès qu'il y a un micro, il y a un truc qui s'allume, quoi.
Il y a de la musique et il y a de la spiritualité.
Et il y a de la spiritualité, complètement.
Les deux avancent ensemble.
Ah ouais,
bah
le
ouais,
combo.
Parce que tu as commencé à chanter à l'église,
exactement,
en fait.
Exactement, ouais. Le combo magique, c'est exactement ça.
Ouais.
Donc ça se manifeste très tôt, il y a cette envie, très tôt, il y a cette projection, cette visualisation, quoi, que j'ai très jeune, mais ça va pas se faire en un claquement de doigts, quoi. Oui, je vais faire tous les métiers du monde avant de pouvoir un jour monter sur scène et d'en faire mon métier, bien sûr. Et c'est génial, parce que je crois que c'est ce qui me permet aujourd'hui de garder quand même les pieds sur terre.
Et comment tu ressentais les choses quand tu faisais les métiers qui n'étaient pas alignés avec la carrière que tu as aujourd'hui dans la musique, dans le divertissement, dans la créativité? Comment t'étais?
Eh bien, j'étais connecté à la musique tout en faisant autre chose.
Tout le temps.
Ouais, je vais te donner une anecdote qui est criante, qui me saute tout de suite à l'œil. Je vais faire une école de gendarmerie.
Et ça, c'est hyper surprenant. parce que tu me l'as dit tout à l'heure.
Ouais,
j'étais là, ok.
Je m'apprête à rentrer dans les forces de l'ordre, quoi. Ouais. Tu vois, donc à l'antipode, je ne sais pas si le mot est correct, mais à le grand écart total. Au carrefour opposé de
toi,
ce qui est.
Il y a l'opposé.
Tu
là,
vois,
c'est là,
on est, il y a les forces de l'ordre, et puis après, il y a l'émotion, en fait. Tu vois, il y a la musicalité, il y a la création, tu vois, donc vraiment le grand écart total.
En fait, le cœur et l'émotionnel n'a pas du tout de place quand tu as un uniforme.
On est d'accord.
Tu es au service d'une corporation. Donc
on est
oublie
d'accord.
qui tu es,
on
ce
ne
que tu ressens.
On ne sait plus qui tu es. Tu as cet uniforme et derrière cet uniforme,
tu
t'effaces et tu obéis à ce qu'on te demande. Et donc, tout en étant dans cette école de gendarmerie, à Mel, il y a ce qu'on appelle les champs de compagnie quand tu es dans l'armée, et en particulier dans la gendarmerie.
Okay.
Donc il y a cette espèce de cérémonie d'ouverture et de fermeture, de process dans l'apprentissage du métier, où la compagnie, une quarantaine d'élèves, chante et marche au pas. Tu vois, c'est vraiment le 1.
On devait entendre que
deux,
toi.
Écoute-moi bien,
toi.
Je me suis retrouvé. Écoute-moi bien, je me suis retrouvé sans le vouloir, de par mes capacités et de par ce que Dieu m'a donné en tant qu'humain et ce qu'on peut appeler un don,
oui.
Je me suis retrouvé à être responsable tête de file et ce qu'on appelle élève chant. Donc je me suis retrouvé, tout en ayant finalement choisi d'incorporer un métier qui soit à l'opposé, tu vois ce que je veux dire, je me retrouve à chanter, à vibrer et à me révéler.
Spiritualista.
Alors cette formation va aller au bout, je vais sortir de là en étant en plus, je le dis, très très bien noté, donc en ayant la possibilité de choisir mon affectation, parce que tu sais, c'est comme l'école de médecine, plus tôt tu termines dans le classement,
ouais.
Plus tôt la carte de France s'ouvre à toi.
Ils ont eu la plus belle Marseillaise qu'ils ont entendue de leur vie.
Attends, je n'ai pas noté que sur le chant, hein, je te rassure. C'était pas une école de chant, c'était aussi du droit, c'était aussi du maintien de l'ordre et tout ce qui va avec ce métier. Mais tout en ayant en tête cette idée de me dire quelque part, rentre dans les rangs, t'es père de famille, il te faut assurer tes arrières, parce que c'était ça aussi la réalité.
C'était devenir fonctionnaire.
C'est-à-dire le moment où, quand l'enfant pleure, il faut mettre à manger, il faut mettre du lait dans le vivant.
T'étais face à tes responsabilités.
Complètement. Et je te parle de ça, on est...
Pendant combien d'années t'as fait ça?
J'ai fait ça 2 ans et demi.
Okay.
J'ai fait ça deux ans et demi. Et on est en 2001.
Okay.
Tu vois, on est en 2001. Naissance de Maëva, 2001. Donc on est dans ce truc où il y a les responsabilités frappent à ta porte. Et puis bon, on va redescendre tranquillement, Coco. On va arrêter la fleur bleue, de tes trucs de church. Mmh. Et puis vient le moment où quand l'enfant a faim, il faut lui donner à manger, voilà.
Exactement.
c'est plus toi et toi seul.
Ouais.
Et voilà, donc si tu veux, tout en étant dans cette tentative d'incorporation du corps militaire et des forces de l'ordre, non, le chant revient, le chant te frappe derrière la tête.
Sur un plan spirituel, Jean-Luc, quand tu dis incorporation, on voit vraiment, moi l'image que je vois quand tu utilises ça, c'est... On enlève ton âme pour mettre l'esprit d'une corporation dans ton corps. Et comment je le ressens, en fait, quand tu l'as dit, j'ai vu, c'est comme si toi, ton âme, elle sortait pas, en fait.
Ouais.
Tu vois, elle restait là, elle était là, parce que toi, tu as vraiment cet ancrage spirituel et qui fait que ton âme reste incorporée.
C'est ça.
Et que du coup, à un moment donné, la vie et la magie restent connectées à toi.
Je crois que tu as raison.
Tu vois ?
Je crois que tu as raison, Ouais, t'as super bien décrit la chose, en fait. Mm. Et que peu importe où tu vas te retrouver, c'est criant.
Ouais.
C'est criant. Et j'ai eu d'autres exemples. Hein. J'ai eu d'autres exemples.
Ça m'étonne même pas.
J'ai eu, à chaque séquence de vie, je t'en parle, j'ai une lumière qui se...
Tu vois la trame.
Ouais, c'est ça. J'ai des lumières, un petit peu le flashback, tu vois, qui se remet en action. Et dans chaque séquence de vie, l'artistique a été présent.
Prédomine. Et gagne toujours.
Et gagne toujours.
Ouais. Bah oui, parce que c'est ton essence divine, tu vois. C'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui te fait vivre. Et c'est ce qui fait aussi... Tu sais, c'est incroyable quand on a des missions, c'est que tu fais vibrer les gens, en fait.
C'est vrai.
Tu fais vibrer les cœurs, tu fais vivre des émotions. Tu vois, t'es un chaman qui, au travers du chant, tu vois.
Ouais.
Et du coup, ton rôle, il est tellement... puissant et divin et nécessaire pour le monde dans lequel on vit. Tu vois, c'est, j'adore les Américains avec la formulation du chosen one, tu vois, du
l'élu.
Voilà, ouais, la main de Dieu est sur ta tête et elle te dirige, elle te met au bon endroit,
c'est
parce
incroyable.
Que tu vois, en toi, il y a
c'est incroyable, il y a vraiment cet aspect de changer en fait le cours de la vie de toutes ces personnes qui viennent par dizaines de milliers chaque soir au théâtre.
C'est énorme.
Et c'est vrai que tu ressors pas indemne, quoi. Il se passe quelque chose de très fort.
Ouais.
Et là où c'est surprenant, c'est que il y a des soirs, il y a des séquences, il y a des moments où tu n'en as même plus conscience toi-même. Tu as agi positivement sur la vie des gens sans le savoir.
En étant ce que tu es.
En étant.
Tout
en
simplement.
Respirant, en fermant les yeux, en ouvrant la bouche pour dire ce que tu as à dire et tu t'effaces.
Ouais.
Ouais, c'est puissant.
Du coup, Jean-Luc, deux ans et demi chez les gendarmes.
Ouais.
Et comment la connexion, le trait d'union se passe entre cette version-là de toi et celui qu'on découvre sur TF1 dans la Star Academy 5 ?
Ouais, c'est assez fort parce que vient le moment où je décide de dire tu lâches tout. Tu lâches tout. En fait, tu n'as plus le contrôle. J'ai pas de contrôle dans ce métier. Tant qu'on veut de moi, je répondrai présent, mais j'ai aussi conscience que tout peut s'arrêter très vite. Tu vois, on n'est pas à l'abri d'un accident, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, et où tout s'arrêterait aussi vite que ça a commencé. Et moi, sur cette année-là, en fait, où je vais décider de dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Ça commence par des castings, ça commence par enregistrer quelques démos sur des cassettes à l'époque, je me souviens. Ça commence par essayer de mettre vraiment en lumière ce qui te fait vibrer, ce qui te représente et ce qui te donne l'envie d'être, en fait. Et vient le moment où tu lâches tout, parce que c'est pas avec la gendarmerie, c'est pas avec les forces de l'ordre, c'est pas avec... Il y a juste ce casting à passer. Ce casting, je le passe, Amel.
Qu'est-ce que t'as chanté pendant ce casting ? Qu'est-ce que t'as choisi ?
Alors, tu vas me croire ou pas,
oui.
c'était le Roi Lion.
Oh !
C'est tout.
Je suis... il est vraiment genre... Ok.
Oh. C'était le Roi Lion parce qu'à l'époque, c'était déjà un spectacle qui se jouait donc dans le parc Disney, qui s'appelait La Légende du Roi Lion.
Ouais.
Et ça va très bien se passer puisque je vais faire la première vague d'audition, la deuxième et la troisième.
C'est un délire.
Et puis vient le moment où on te fait gentiment comprendre que c'est pour toi.
Et comment t'as réagi à l'annonce ?
Ça remonte à loin, mais...
C'est un coup de fil ?
C'est un coup de fil. Ouais, c'est un coup de fil. C'est un coup de fil. C'est pour toi. Je crois que je n'éclate pas forcément de joie parce que je suis encore dans la crainte de savoir est-ce que je laisse vraiment tomber tout ce pourquoi je me bats depuis... Tant d'années, finalement. Tant d'années pour être ce que je n'ai pas envie d'être. Cette école de gendarmerie, les sacrifices. Je suis père de famille à l'époque. Donc, quand tu es en internat, école de gendarmerie à distance, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'étapes de vie que tu rates. Pour le coup, tu vois, 20 ans plus tard, je les rate encore parce que je suis en tournée et que je ne suis pas auprès de mes enfants tous les jours. Mais c'était déjà ça aussi, la part du sacrifice. C'était déjà ça aussi... ce qu'il fallait lâcher d'une main pour récupérer d'une autre et qui te procure au quintuple ce que tu as tant envie, désires tant.
C'est comme une négociation avec toi-même.
Ouais, complètement.
Ouais.
On est sur ce yin et ce yang. Mm-hmm. C'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc. Tu vois,
c'est ça.
Je pense que t'adhères à ça. Et on est dans cet épanouissement que je vais avoir à l'époque, mais aujourd'hui encore, en tant qu'artiste, mais derrière, il y a beaucoup de choses que tu rates.
Mm.
Beaucoup de choses à travers lesquelles tu passes, quoi. Tu vois, tu survoles parce que t'es pas présent.
Et quelle est la place que tu entretiens avec Dieu, avec le divin, avec le monde de l'invisible à ce moment où tu reçois cette annonce, qui est quand même big, je pense.
Ouais, c'est énorme, énorme. Et à chaque annonce, c'est énorme.
Ouais.
Parce que ma vie d'artiste, c'est d'être sur scène, c'est d'auditionner. Donc, le process d'audition, c'est accepter d'effacer tout ce qu'on a pu faire avant. Tu vois, là, on est entouré de mes magnifiques posters, et c'est extraordinaire, et c'est beau. C'est génial,
Nokia,
parce que, voilà,
Chicago,
tu vois.
Chicago, c'est légendaire, tout
c'est,
ça.
Et c'est extraordinaire.
C'est trop beau.
Mais vient le moment où tu ouvres une pièce, tu ouvres une porte, pardon, pardon, tu te retrouves dans une pièce, on t'auditionne pour un nouveau rôle, et ce qu'on a fait avant, on s'en bat les cacahuètes.
T'es jugé sur l'ici et maintenant.
T'es jugé sur ce que tu vas faire là maintenant, peu importe ce que t'avais avant, peu importe quel costume tu as porté avant. Donc c'est vraiment une force et une capacité de remise en question qui est totale. On repart à zéro.
Faut être hyper.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est ta, dans c'est ta vulnérabilité. Ouais,
c'est une forme d'humilité.
Exactement.
C'est une forme d'humilité. Je le vis comme ça, en fait. Moi, j'arrive devant un casting. Il y a ce jury, voilà, installé de 7, 8,
personne,
15
quoi.
Personnes.
C'est vraiment le truc. T'es...
Et les ricains sont comme ça.
Bah, de ouf.
Tu vois? Je suis sur un musical de Broadway avec Le Roi Lion et d'autres que j'ai pu faire. Les ricains sont comme ça. Ton CV, on n'en a rien à cirer. Ouais. On veut voir ce pourquoi tu viens auditionner.
Prouve.
Ah ouais, toi, t'es Mufasa, toi. Vas-y. Mais montre-nous. Raconte-nous ton Mufasa. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette remise en question, elle est systématique. Ça fait partie du parcours de l'artiste. Mmh. L'artiste du théâtre musical.
Et donc, la place de Dieu.
Et la place de Dieu.
Quand tu prépares, quand tu reçois les réponses.
C'est le sentiment, si tu veux. Que là où je passe, il est déjà passé.
Oh, attends. T'en calme sur celle-ci. Waouh.
Je n'ai jamais rien fait au hasard. Voilà mon positionnement par rapport à Dieu. J'ai cette chance, cette bénédiction d'avoir pacté et d'avoir fait un high five avec lui très tôt. Et je n'ai jamais mis un pied en dehors de là où il a voulu que je mette les pieds, en fait. Il y a cet alignement, cette conduite, cette main dans la main, cette armure qui fait que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est parce qu'il a validé, en fait. C'est aussi simple que ça. Et au quotidien, je lui adresse cette demande. De faire en sorte que ce lien puisse perdurer, que je puisse réellement ne pas avoir à traverser ce qu'on appelle le désert, quoi, la traversée du désert. Mais cette expression-là, elle est toute faite aussi dans le milieu artistique.
Ouais.
Tu vois, on a des artistes qui sortent des albums qui sont extraordinaires et ils vont faire tournée mondiale 5 ans d'affilée. Et puis à un moment donné, il y a le flop, il y a cette fameuse traversée du désert qu'on a tous. Que j'ai également eu, oulala, moi si je te parle de mon année 2013, c'est-à-dire que normalement tu sautes, quoi, tu sautes du 7e étage, tu passes une corde avec ce que tu peux trouver et tu dis stop parce que c'est trop lourd et que psychologiquement, humainement, il n'y a personne qui ne mérite ça. Et pourtant, tu vois, les épreuves de vie qui, à aucun moment, moi, m'ont fait me sentir. Ne pas être entouré et ne pas être entre ses mains à ce Dieu Tout-Puissant.
Et comment toi, Jean-Luc, t'arrives à garder la foi quand ça devient plus compliqué dans la vie?
Comment j'arrive à garder la foi? Je crois que c'est quelque chose qui me dépasse. J'ai pas d'explication. C'est vraiment ce sentiment d'avoir pacté, en fait. D'avoir pacté, de savoir que tu es entre de bonnes mains. Parce qu'il est là, en fait. Parce qu'il y a cette présence, il y a cette onction, il y a ce contour, cette armée même, en réalité, qui fait que t'as pas d'autre choix que d'avancer, d'avoir la foi. Il n'y a pas de place au doute. Il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de place à la remise en question malsaine, tu vois. Mais quand je te dis ça, c'est vraiment dans cet aspect de te dire, est-ce que là, ce qui m'arrive là, c'est vraiment juste? Est-ce que j'ai vraiment mérité ça? Je crois qu'il n'y a aucune épreuve que Dieu ne t'envoie qui est faite pour te mettre au sol mort, quoi.
Merci pour la qualité du partage.
Non, je suis en transparence totale avec toi.
Ouais.
Il n'y a pas de triche, en fait. Il n'y a pas de triche. Tu sais, vient le moment où tu suscites aussi beaucoup de questionnements. Quand les choses t'arrivent comme ça et que ce n'est pas le cas pour tout le monde, tu suscites du questionnement. Les gens se disent, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? De la jalousie aussi, quelque chose qui est malsain, qui est mal... Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'envie de faire mal, c'est parce qu'il y a le questionnement avec soi-même, et je peux le comprendre. Pourquoi est-ce que moi, ça ne m'arrive pas autant? Donc... Donc c'est important de savoir partager.
Ouais. Parce que si on replace dans le contexte, We Are One, c'est une chorale, oui. C'est, voilà, tout le monde se connaît. À l'époque, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais on connaît les visages. Parce que je me souviens quand il y avait des émissions de chant sur les chaînes de télé, les chorales derrière, tu voyais un peu toujours les mêmes têtes, tu vois.
Ah, c'est une secte.
Et ouais, grave. Et donc, toi, tu passes de We Are One à TF1 Prime.
Ouais.
Truc de dingue, des artistes internationaux, tu chantes avec eux, t'es là.
Mais le pire, c'est que je me présente à ce casting Star Academy avec mon petit groupe quoi, de 4 chanteurs.
Ah, c'est vrai.
Il y a cet aspect donc choral où on est 60 sur scène. Et puis de là, moi, je me, pas que je me détache, mais voilà, j'opte pour cette filière du groupe vocal, donc du band à 4, oui. Tu vois, façon Boyz II Men.
Je me rappelle, à l'époque, il y avait les Aphrodisiaques. Exactement. Il y avait plein de groupes
exactement.
Français comme
Poetic
ça qui
faisaient
du
R&B, donc vraiment le registre a cappella. Exact, ouais. Exact. Je me rapproche de cette formation-là. Et on se présente à 4 au casting Starac.
C'est-à-dire
que moi, je suis celui qui va traîner la patte pour aller à ce casting.
Comme par hasard.
Je me dis, mais les gars, on est un groupe de 4 et c'est un projet de développement individuel. Hein, tu connais le projet de Starac, c'est un gagnant.
Mentalement, tu te sabotais déjà en amont.
Ouais, j'ai le sentiment de... C'est pas ce qu'on veut, les mecs, ouais, tu vois. Donc, ouais. Je traînais la patte et j'étais pas convaincu du tout. Et pourtant.
Et ouais.
C'était écrit ainsi, quoi.
Incroyable.
On passe tous les 4 ce fameux casting et on va nous demander ensuite de repasser individuellement.
En solo.
Parce que le projet, c'est d'avoir un développement artistique individuel.
Mm-hmm.
Et lorsque je me présente en solo, ah ben c'est là où ça mord, quoi.
Vous êtes restés amis après...
Oui. Ça, même si beaucoup, certains ont eu du mal, n'ont pas compris, en fait, comment fonctionnait l'émission. C'est-à-dire que certains attendaient... qu'une fois à l'intérieur,
tu
non mais voilà c'est ça, tu vois,
que
je passe ma dédicace, voilà c'est ça, je passe ma dédicace à chaque.
Ils sont avec moi, Nico,
ouais,
avec moi.
C'est ça. Hashtag frérot du 77, hashtag mes frérots du, tu vois.
Ouais.
Les gars s'attendaient, on était jeunes, hein, jeunes, il y avait cette.
T'avais quel âge toi pendant la Starac?
Starac, écoute, c'est très simple. Stevie Wonder m'a souhaité joyeux anniversaire le soir de mes 27 ans, voilà, avec la version. Happy birthday to you. Improbable. C'est pareil, je t'en parle, je me dis, mais qui est ce type là, ce grand noir au milieu du band de Stevie Wonder,
sais,
à qui on chante Happy birthday.
En fait, t'as créé ta propre simulation dans la matrice TF1,
ouais,
dans la matrice audiovisuelle.
Ah, c'était fou.
Et artistique.
C'était fou. Je ne l'explique pas. Il m'arrive encore de voilà, on me renvoie de temps en temps sur les réseaux certaines images, séquences visuelles,
délire.
Et je regarde le truc en me disant
t'as fait ça,
ouais, c'est vrai que t'as fait ça. Il y a quelque chose de ne pas complètement digéré, tu sais.
Mais Jean-Luc, quand t'es sur un plateau de télé, que Stevie Wonder te chante Happy Birthday to you,
ouais.
T'es comment toi? T'es en sortie de corps? T'es là?
T'es en kiff?
T'es comme un enfant?
Non, t'es pas
Qu'est-ce
vraiment là.
Qu'est-ce qui se passe?
T'es pas vraiment là. Dans un premier temps, pétrifié. Parce que pour le coup, c'est vraiment l'élève qui se retrouve à côté de la légende.
Totalement.
Hein, l'élève de la Starac, d'ailleurs, c'est une académie, donc on peut vraiment parler de cette idée de l'apprentissage. Et puis il y a la légende à côté.
Ouais.
Duo compliqué pour rentrer dans le détail, parce que pas de contact visuel.
Ouais.
Tu sais, le duo passe beaucoup par l'œil quand tu chantes. Stevie a ses lunettes de soleil parce qu'il est non-voyant. Et donc, il y a vraiment cet aspect de rempart. C'est pas simple.
Comme une petite coupure.
Ouais. C'est pas simple de pouvoir rentrer dans ce duo.
Comment tu t'es marié musicalement, du coup
J'ai le sentiment de ne pas avoir existé. Hein. Ah oui, non, vraiment, aujourd'hui encore. Ah non, vraiment. C'est-à-dire que quand on me pose la question... je sais pas, moi, est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais revivre, ou est-ce qu'il y a un truc qu'est-ce que tu regrettes, qu'est-ce que t'aurais voulu faire que t'as pas fait? Systématiquement, j'ai vraiment ce duo qui revient en tête.
D'accord.
Parce que j'ai tenté d'exister.
Ouais.
J'étais que l'ombre de moi-même à ce moment-là. On était vraiment... Je suis... physiquement au milieu d'une band qui existe. Mmh. Il a 8 musiciens ouais. qui sont en tournée mondiale.
Dans son écosystème.
Dans son écosystème.
Et t'as rien de plus qu'une poussière d'étoiles dans son écosystème.
C'est exactement l'idée. Ouais. C'est exactement ouais. l'idée. Ouais. Il accepte d'être là. Parce que je pense que ça fait partie aussi du parcours promotionnel de son oui. album et de tout ce qui va avec. Mm-hmm. Donc le deal, c'est de tu dois chanter avec un élève. Parce que.
Et lui voilà. dit, bon, bah, ça prend un choriste de plus dans sa tête, tu vois.
et. Ben non, ce serait pas juste de dire ça, parce qu'il a vraiment tenté de me mettre à l'aise. Back. Avant le coup d'envoi, pour parler footballistiquement parlant, oui. avant le début du Prime et de ce numéro, il change la tonalité. Il décide de changer la tonalité du morceau parce qu'il sent que ça va me mettre plus à l'aise. Oui. Donc il y a quelque chose de légendaire, de grand, d'accord. de grand et de très humble oui. chez Stevie Wonder pour me mettre à l'aise.
C'est nucléaire un Prime sur TF1, je pense, en termes d'énergie, tu vois, c'est des explosions toutes les semaines, c'est, tu vois. Déjà énergétiquement, j'aimerais bien savoir si t'as capté des choses, ressenti des choses, s'il y a eu des moments beaucoup plus intenses que d'autres. Et deuxième question, c'est, est-ce que pour toi, le château et la Starac, ça a été, ça t'a aidé dans ton évolution initiatique ? Est-ce que tu sens que t'as grandi au sein de cette aventure ?
Bien sûr, je vais commencer par ta deuxième question. C'est une école, c'est une vraie école, et ça, j'insiste là-dessus. Beaucoup n'en ont pas forcément conscience. Tu vois, 20 ans après, la Starac est revenue, hein, on a oui. eu le retour, et y a cette génération Starac qui est encore tellement présente, finalement. Les gens regardent le programme comme un divertissement, une télé-réalité aussi, et c'est normal, voilà, les caméras tournent H24. Mais il y a vraiment cet aspect d'apprentissage, d'académie et d'école. Et je crois que c'est aussi pour ça que ce show télévisé met tout le monde d'accord. C'est parce qu'on n'est pas juste là pour montrer ses fesses, faire des jeux à, je sais pas moi, s'envoyer, sauter dans une piscine ou s'envoyer de la chantilly à la gueule, quoi. Il y a cet aspect vraiment où les cours sont disposés et donnés de façon très méthodique et où on apprend un éventuel futur métier pour ceux qui iront au bout et pour ceux qui auront la chance d'en vivre. Ça a été mon cas et je suis extrêmement grateful. Le matin, 7h, quand on se réveillait pour aller en cours de PS avec Christophe Pina, 8 fois champion du monde, et qui n'a pas que ça à faire que de montrer sa gueule juste pour faire de la télé, crois-moi, c'était un vrai cours de sport. Mmh. Tu vois ? Voilà, donc il y avait vraiment cet aspect où je me suis dit, je vais apprendre.
Ok.
Voilà, j'ai d'ailleurs eu mon premier cours de chant au sein même du château. Je n'ai jamais eu de cours de chant.
Sérieux ?
Alors que c'était mon métier en 2004.
Mais quand tu répétais avec la chorale et tout ça, c'était...
C'est pas du cours de chant.
C'est pas des cours de chant.
On répète.
Ah ouais, okay.
On répète pour être sur scène. Donc moi, si tu veux, j'arrive avec un bagage qui est déjà là et que je vais peaufiner au fur et à mesure que les représentations de We Are One se font.
Oui.
Pareil pour les différents showcases et autres que j'ai pu faire avec mon petit groupe de Cat Boys. S'il faut remonter même en amont à l'église et autres. Donc voilà, tu vas réveiller cette oreille musicale, cette sensibilité musicale.
T'es dans ton flow, en fait.
T'es dans quelque chose qui te parle et qui t'appartient et avec lequel tu es en paix parce que tu te sens légitime.
Ouais.
Mais le cours de chant théorique proprement dit, tel que tout chanteur qui se respecte est censé quand même à un moment donné avoir, eh bien moi, le mien est arrivé pour la première
C'était
fois.
C'était dur du coup ?
Ouais, il était technique, Richard Crosse. Ah, ouais. C'était des trucs que je comprenais pas tout le temps. Ouais, il y avait ces fameux puppy, tu vois, où il te mettait la main sur le.
Ouais.
Voilà, c'est ça. On était vraiment sur ce truc de répéter systématiquement les mêmes labiales, les mêmes.
Et t'en prends encore aujourd'hui des cours de chant ?
Non.
Ok.
Non. J'ai cette chance d'avoir été formé, ce que j'aime beaucoup répéter, avec l'école de la rue, parce que je suis un autodidacte, en fait. Tu vois, les choses me sont arrivées parce que j'ai été les chercher tout seul comme un grand. Je suis personne, j'ai personne dans ma famille qui a mis les pieds avant pour pouvoir me faire la courte échelle. Je me suis formé tout seul, j'ai débarqué et j'ai frappé à cette porte de casting tout seul sans aucune prétention. C'est donc au fur et à mesure, si tu veux, que la scène, que les rencontres, que les différentes connexions que tu vas avoir dans ce milieu professionnel, c'est toutes ces connexions qui font que toi tu grandis, tu apprends, tu te perfectionnes.
Ouais.
Aujourd'hui encore, je sais que ma technique vocale sur scène me permet de surpasser les petits bobos du quotidien, j'ai envie de dire. Tu vois, je suis dans un rythme où on joue 8 fois par semaine, c'est les Jeux Olympiques. C'est clairement Paris 2024 déjà.
Oui, parce qu'il y a des soirs où tu joues 2 fois, non?
Ouais, il y en a même 3 dans la semaine, des
Pardon
fois.
Pardon
Ah, ouais. Wow. Ah ouais, on va jusqu'à 9 représentations semaine en période haute. Donc c'est les JO, clairement. C'est les JO, on va pas se mentir. Donc il y a des séquences et des moments où ton corps crie au secours parce que la fatigue, parce que on vit en communauté. Hein, ouais. Donc tu vois, il y a un petit bobo ou un petit virus qui circule, aussi grave soit-il ou pas, c'est le partage total et absolu. On est sur scène H24. Ouais. Je passe plus de temps avec mon roommate dans la dressing room qu'avec ma femme. C'est vois ce que je veux dire?
En même temps, ça doit être une ambiance incroyable en réalité.
C'est juste la unique. La vie de troupe est extraordinaire.
Ça doit être dingue, ça doit être des liens de fou.
Complètement, une bienveillance extraordinaire. Ouais. Et en particulier lorsqu'on tourne. Parce qu'on est tous loin de nos racines,
ouais,
et qu'on s'attache beaucoup plus facilement. C'est nécessaire, c'est essentiel à notre survie, j'ai envie de dire, d'être connectés les uns aux autres.
Pour tourner la page de l'épisode de l'aventure Starac, quand tu sors de la Starac Academy,
ouais.
T'es connu, on te reconnaît.
De fou. Ouais, c'est impressionnant.
Comment tu gères ça? Parce que moi, c'est toujours un truc... J'avais posé la question à Jean-Pascal Zadi aussi.
Ouais.
Et parce que moi, j'ai vu vraiment son ascension et son rapport avec les gens à ses côtés, en fait. Parce que quand il travaillait avec moi à la radio, il n'avait pas sorti son film, il n'avait pas été césarisé.
Césarisé, donc il y a un vrai avant-après, quoi.
Et j'ai même vu les gens qui bossaient avec nous à la radio, qui sont là tous les jours, changer.
Ouais, ouais, ouais.
Et toi, comment ça s'est passé? Ce rapport à la fame.
Bah, c'est pareil, Mamel. J'ai vu des gens changer autour de moi et des gens dans un entourage très proche, des gens de ma famille. J'ai eu peur. J'ai eu très peur parce que c'est vraiment cette idée d'avoir la vie de château, donc avec le service de sécurité qui va avec, partout où on se déplaçait. Et puis l'émission s'arrête et merci, bonne continuation. Tu vois ? Donc le service de sécurité n'est plus, n'existe plus, mais c'est pas pour autant que la ferveur et la fougue, tu vois, de toute cette génération diminue. Et il faut faire face à ça. Et je suis père de famille, et mes enfants sont très jeunes, et il faut continuer de faire les courses à Carrefour, à Auchan, et ce qui va avec.
Bien sûr.
Tu comprends? Ouais.
Donc j'ai très peur. La vie normale.
La vie normale continue. Alors quand bien même, c'est vrai que, et je leur dois beaucoup, à mes enfants, à cette vie de famille, parce que rattaché à une vraie réalité, et je crois que c'est ce qui m'empêche de choper le melon, d'avoir la grosse tête, non, mais clairement, tu vois, d'être dans un monde parallèle qui n'est pas le vrai monde, et je crois que c'est ce qui me retient à la réalité. Toutes ces expériences professionnelles aussi, tu vois, me permettent de savoir quelle est la valeur d'un euro et de ne pas avoir la tête qui tourne.
Et il y a un truc très particulier, je pense, dans les milieux artistiques, créatifs, c'est qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration, le fait de tourner, tout ça, parfois ça arrive par vagues. Et en fait, c'est un peu comme si tu es dans un roller coaster toute ta vie et que finalement, ensuite, c'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est bas. Ça y est, au bout d'un moment, tu commences un peu à savoir les gérer et tu sais que Il y a un haut qui va revenir après un bas à un moment donné.
Ouais,
il faut juste
ça.
Bien gérer la vague, tu vois.
C'est exactement ça. T'as tout dit. Et c'est même au-delà de l'aspect artistique uniquement.
Ouais,
je crois que c'est l'onde de la vie. C'est l'onde de la vie. Et Dieu merci, on n'a pas qu'un ciel bleu à longueur de journée, tu vois.
J'ai l'impression que c'est exacerbé chez les gens de l'artistique. Je vais te le dire pourquoi. Parce que performer sur une scène où t'as des milliers de personnes, c'est une connexion énergétique qu'ont pas les gens qui travaillent dans un bureau, une rédac, tu vois. Moi, j'ai eu une petite gouttelette de ça quand j'ai fait du stand-up.
Yes.
Face à 80 personnes et que je jouais, j'ai l'impression d'être en combustion spontanée et que je n'arrivais même pas à gérer l'énergie qu'on m'envoyait.
Ah, il te donne.
Tu vois, parce que j'étais nouvelle et
bien
tu
sûr.
Vois, genre... Et quand ça s'est arrêté, le stand-up...
T'as eu un manque.
Mais de ouf, j'étais en dépression.
Ah ouais.
Le mot, c'est la dépression.
Ah ouais.
Parce que je n'avais plus cette décharge-là. J'étais devenue accro à cette décharge.
Ouais.
Cette vague de rire et d'amour et de,
très vite,
de joy.
Il y a le manque quand ça s'arrête.
Donc c'est pour ça que c'est très, très dur quand t'as pas une structure de soutien, une famille, quelque chose de stable qui reste toujours là pour pouvoir gérer ces vagues-là.
C'est essentiel, bien sûr.
C'est très dur pour beaucoup d'artistes qui sont seuls, malheureusement, tu
vois. Bien sûr. Et même ceux qui, comme dans mon cas, sont pères de famille et, et sont dans une enracinés dans une famille, quand la dépression te chope, elle te chope, en fait. Elle te chope et même les mieux, plus armés, les plus aguerris, et elle te chope. Et c'est à toi de dealer avec ce que tu as comme tu peux. Malgré la prise de conscience que tu as de te dire que tu dois relever la tête, t'es pas seul, tu dois montrer l'exemple. C'est vraiment ce sentiment de constamment montrer l'exemple.
Est-ce que parfois tu t'autorises à te connecter à ta vulnérabilité et juste le fait de d'être en mode bah là le roi lion il pose sa couronne quoi.
Ouais, bien sûr, ça c'est important.
Passer du roi lion au chaton qui a juste besoin,
de miauler, de pleurer.
Est-ce que tu t'autorises à vivre ces moments-là?
Bien sûr. Non, c'est essentiel parce que c'est ces moments-là qui te permettent finalement de réaliser que quand tout va bien, c'est extraordinaire et que c'est pas acquis, que ça t'appartient pas en fait. Il faut pouvoir vivre le mal, la douleur, la remise en question. Il faut pouvoir vivre l'isolement des fois pour apprécier les belles vagues quand elles sont au plus haut, quand l'énergie est au top. Je repense à cette année et demie de pandémie où tous les théâtres étaient fermés, où le monde, où la culture s'est arrêtée totalement. Dur parce que je ne sais faire que ça, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Moi, il y a zéro moyen de reconversion ou de se dire je vais, c'est pas grave, je vais tenter autre chose parce que je sais faire autre chose. Moi, je sais pas, et on ne savait pas quand est-ce que ça
reviendrait. Ça allait reprendre.
Si un jour ça reprendrait.
Wow.
Beaucoup ont dit c'est la fin du cinéma, c'est la fin du théâtre, c'est la fin de, on n'y arrivera pas.
Du spectacle vivant. Ouais.
Tu vois.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et donc cette période-là de dépression, parce que j'y ai goûté aussi, ça n'enlevait rien au fait que je suis père de famille, que je suis toujours Jean-Luc Guizonne, papa de deux, marié avec une femme extraordinaire, et pourtant ça te frappe derrière la tête et ta remise en question est telle que la dépression te chope. Tu vois,
la santé mentale, c'est quelque chose dont tu as conscience, ou c'est les aléas de la vie à un moment donné qui t'ont connecté à ça?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Très tôt, j'ai su que tout passait par le cerveau,
les émotions, ton
tout,
bien-être.
Tout passe par là, et ça, c'est important. Donc j'en ai pris conscience très tôt. Et puis après, y a ce que tu expérimentes et qui vient conforter davantage ce que tu pressentais, ce que tu sentais. Ouais, c'est difficile d'aller bien quand le cerveau ne va pas bien, je crois.
Et même pour toi, sur scène, est-ce qu'il y a des moments où t'arrives et t'es down, genre t'as pas envie, ou t'es fatigué?
Bien sûr.
Comment t'arrives à te connecter à ta magie pour performer, tu vois? Parce que là, les lumières, les regards sont sur toi, t'as pas le droit à l'erreur.
T'as pas le droit à l'erreur, il n'y a pas de couper. On l'a refait.
Non.
C'est le live. Le rideau monte et t'es parti pour 2h40 de spectacle. Donc, ta langue qui fourche, une phrase qui est mal positionnée, quelque chose qui une projection qui n'est pas bien intentionnée, un jeu qui est ramolli, c'est déjà trop tard. Et tu dois garder ce focus sur ce qui arrive. Si tu es déjà en train de penser sur ce que tu viens de louper, et Dieu sait que moi, ça peut être mon cas souvent, parce que je joue en anglais et que l'anglais n'est pas ma langue natale, ma langue maternelle. Donc, je suis extrêmement focus sur la diction, sur la... Et ça m'arrive d'avoir... voilà, je peux m'entendre quand je ne suis pas juste dans mon accent. Mais si jamais je fais donc la surenchère, la surbêtise de te dire que là t'as pas été, c'est terminé, t'es too late, t'es déjà trop en retard.
Bye.
Le petit qui joue avec toi, les collègues et autres t'ont perdu. Tu comprends? Donc il y a vraiment cette nécessité de se dire, et c'est aussi le discours que j'aime.
Tu joues sans filet, en fait.
Tu vois, sans filet, mais surtout la nécessité de dire on avance, quoi. Ok, on a loupé. Bref, c'est derrière, on avance.
Show must go on.
Tu vois, là, c'est exactement ça. C'est aussi mon leitmotiv du quotidien.
Ouais. C'est hyper spirituel, en fait. C'est du développement personnel.
On en est là. Et puis, tu sais, se mettre à la place de l'autre. Voilà. Moi, je suis down. Je vais avoir un moment où je suis pas bien. Où je vais peut-être même me dire qu'est-ce que je fais là, comment je vais faire là pour vraiment être crédible dans ce qui m'arrive quand je... Eh ben, c'est se mettre à la place de l'autre. Et se mettre à la place de l'autre, eh ben, c'est cette famille de 4 personnes qui va lâcher 500 pounds à 4 pour venir te voir. Ils ont économisé pendant peut-être 6, 7, 8 mois. Et que ces gens-là, mais en fait, ils n'en ont rien à cirer, comment tu vas? Ils n'ont rien à cirer de savoir si là tu t'embrouilles avec ta meuf ou si avec ta fille ou tes enfants, c'est Ramageddon en ce moment à la maison. Pour eux, parce que tu te mets à la place des autres et parce que tu oublies ce que toi tu portes sur les épaules, c'est ce qui te permet d'aller danser avec les étoiles. Tu vois, et de faire le job. Mais même pas forcément que pour l'aspect public, les collègues de travail avec qui tu évolues, tu n'as pas le droit de venir les polluer sur ce qui t'arrive toi. La scène est mon médicament. C'est un truc, ça n'ira pas bien dans ma vie personnelle. Je sais qu'en allant sur scène, non seulement physiquement dans la forme, voilà, j'enfile ce costume, on m'applique ce maquillage, j'installe ma perruque et je passe donc à ce personnage, mais psychologiquement, c'est essentiel aussi. C'est essentiel aussi.
Ouais, tu rentres dans le personnage pour de vrai.
C'est ça. Et c'est incroyable parce que c'est pas donné à tout le monde de faire abstraction de tout ce qui nous arrive dans la vie du quotidien. J'ai beaucoup de collègues pour qui c'est impossible. Ils vont te raconter leurs problèmes en off et sur scène, tu vas ressentir qu'il y a quelque chose. Donc, c'est pas une garantie. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde.
C'est hyper intéressant parce que le week-end dernier, j'ai fait un week-end de constellation familiale.
Ok.
Y a un épisode qui est sorti sur le sujet. C'est en fait, c'est une espèce de thérapie où tu es en groupe avec des gens que tu connais pas et tu vas jouer leur système familial pour qu'ils trouvent des clés de compréhension sur tout ce qui se joue.
Dans un acting où chacun reproduit le parent la sœur.
Et c'est ouf parce que quand tu es représentant pour la constellation de quelqu'un, toi, tu ne sais pas ce que tu joues. Mais quand tu rentres en scène, dans une zone qui est un rond, qu'on appelle, c'est la zone du « c'est tout », parce que quand tu te connectes à ce champ-là, tu sais tout, tu vois. Et on te demande d'abord de vider ta bouteille. Vider ta bouteille, c'est, par exemple, tout ce qui est la personnalité d'Amel, son ego et tout, comme une bouteille, je le vide.
Ok.
Pour pouvoir laisser l'énergie de ce que je représente
envahir.
Ouais, comme une main qui rentre dans le gang que je suis et qui va jouer le rôle que je joue. Et quand tu me parles de, tu vois, toutes les étapes où tu rentres dans le personnage et où finalement, ça y est, t'y vas, parce qu'en fait, t'as fait cette transposition, toi, ton ego du Jean-Luc qui a ses histoires dans sa tête et ses problèmes, tu les as vidés, t'as vidé ta bouteille parce que t'as pensé aux gens qui sont là dans le public,
tu vois.
Donc t'as laissé la place.
C'est exactement ça.
Et là où tu me parles de tes collègues, moi, ce que je vois, c'est des gens qui sont encore trop accrochés à leur ego et qui n'ont pas bien vidé la bouteille. Ouais, il reste le petit fond.
C'est exactement
ça. C'est hyper intéressant.
Ça passe par Par l'oubli de soi.
Exact. Se mettre au service d'un show, se mettre au service d'un public, se mettre au service, tu vois, c'est un sacerdoce. Hein. Ouais. C'est comme les prêtres, c'est comme les bonnes sœurs, c'est très, très, c'est sacré, en fait.
T'as signé, quoi. T'as signé et il faut aller au bout du contrat.
Ouais.
Tu dois grandir aussi, toi.
Moi ?
Ouais.
Ouais.
Je pense que ça doit vraiment te rendre un vrai service.
Ouais, ouais, ouais.
De te mettre au service de l'autre, finalement.
De ouf.
C'est incroyable.
Bah, en fait,
tous ces témoignages que tu récoltes, que tu entends, que tu écoutes, c'est gratifiant, j'imagine.
Mais c'est l'abondance.
Ouais.
Pour moi, c'est l'abondance absolue.
C'est le mot, ouais.
Ouais, ouais. C'est ça. Pour moi, c'est le jackpot.
Ouais.
En faisant ce podcast, je me connecte à la richesse de tous les gens qui partagent avec moi ce qu'ils ont de meilleur en eux.
De ce qu'ils ont meilleur en eux.
Tu vois,
ouais. Qui arrivent dans un alignement et une certaine apogée quelque part.
De ouf.
Ouais.
C'est des clés.
C'est des portes. Ouais, ouais, des portes que tu permets d'ouvrir et tu permets aux autres d'y accéder, quoi.
Et c'est incroyable que tu dises ça parce qu'il y a un rêve que je faisais tout le temps. Tu as dit, c'est des portes que tu ouvres et tu permets aux autres d'y accéder.
Yes.
J'ai un rêve qui était récurrent, que la plante sacrée au Pérou, l'ayahuasca, m'a expliqué quand j'étais en transe, alors que j'ai rien demandé, mais elle m'a apporté la symbolique de ce rêve. C'est mes auditeurs et mes auditrices, ils le connaissent, j'en ai déjà parlé, mais je te le raconte. Je faisais un rêve où j'arrivais, Paris, boîte de nuit, j'arrive en taxi, il y a une file d'attente incroyable, et deux videurs qui sont là, et je vois que ça n'avance pas et tout. Et tu connais, nous on a l'habitude de sortir, on fait pas la queue, tu vois, ça va pas, on arrive, on est là, on a
vif.
Des talons,
on est vif.
Et je sais pas, je regarde comme ça, je regarde s'il y a des gens que je connais, tu vois, si je connais les videurs, non je connais pas, s'il y a des gens que je connais dans la file, non je connais pas, il y a trop de monde.
Yes.
Et je sais pas pourquoi, je contourne la boîte de nuit, et je trouve une espèce de petite porte, comme tu sais, les trucs des chats là, comme ça,
d'accord,
là, clapet,
okay.
Mais plus grande, tu vois.
Taille adulte.
Ouais, taille médium. Et je vois ça. Et je sais pas pourquoi, je soulève, et je sens que je peux passer, je passe, et je vois que je suis dans la boîte, en fait, tu
au
vois.
Calme.
Il y a l'ambiance, il y a tout.
Sans passer par les 3 jours de file d'attente.
Mais là, moi, je suis dans la boîte, et je me dis, mais je peux pas kiffer la boîte et me dire qu'il y a tous ces gens là-bas qui attendent. Peut-être qu'ils vont pas rentrer. Je ressors, et je dis aux gens qui sont à la fin de la file, je leur dis, hey, sois discret, suis-moi. Dis aux autres, ensuite, il y aura quelqu'un qui viendra les chercher, on fait un petit relais comme ça, on va rentrer. On va pas payer, on n'est pas sur la liste, on s'en fout, tu vois. Et du coup, je ramène ces gens avec moi là-bas. Et l'ayahuasca, du coup, m'a expliqué et m'a dit, c'est comme si il y a une certaine route d'accès vers le sacré et le divin qui existe, mais qui est tellement laborieuse, et où on t'explique qu'il y a des passe-droits, il y a des obligations, il y a des choses. Et c'est pas ça, parce que Dieu facilite l'accès à lui, tu vois. Tout est simple et tout est facile quand tu le choisis.
Comme si ces gens-là n'étaient pas dans la vraie vie, quoi, finalement.
Ouais,
s'affligeaient.
Et qu'on attend que deux cerbères valident ton accès.
Ouais.
C'est comme si la discothèque, c'est Dieu, en fait. La boîte, c'est Dieu, tu vois. Personne ne valide ton accès. C'est toi-même qui le valide. La connexion, elle a toujours été là. La fibre, on l'a tous, en fait, avec Dieu. Et que du coup, tu vois, ce petit taxé-là, qui est la porte du cœur, tu vois, la porte de notre âme, elle a toujours été ouverte, elle a toujours été disponible.
Ouais.
Faut juste que tu te rendes humble, que tu te baisses, tu vois.
Pour y accéder.
Et que tu y accèdes.
Ah, c'est incroyable.
Et c'était dingue.
L'image est belle.
Et ouais.
Je m'attendais à une autre fin.
Vas-y, dis-moi.
Je peux te la raconter.
Vas-y.
J'étais persuadé que quand tu reviendrais donc pour aider les derniers de la file, au moment de les faire repasser par cette entrée serait fermée.
Oh, d'accord.
Cette entrée serait fermée, n'existerait plus. Et qu'on analyserait ça comme... C'était ta bénédiction à toi. C'était ce qui t'attendait à toi. Et qu'il n'y avait pas de nécessité. Mais bon, c'est un peu glauque, pardon.
Non, c'est pas mal, c'est pas mal.
La fin est un peu glauque, mais ce scénar, il existe aussi dans la vie, en fait.
Ouais.
Des fois, on a aussi tendance à vouloir être dans un excès de générosité, alors que cette blessings, ce cadeau du ciel, t'appartient à toi.
T'as raison.
Et il a été mis de côté pour toi. Tu comprends?
Ouais, elle est personnalisée.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et j'aime bien ce que t'as dit, là, t'as apporté un autre éclairage à ce rêve métaphorique. C'est quand je vais chercher les autres,
oui.
Les derniers seront les premiers.
Exact.
Délire ou pas ?
Exact.
Jean-Luc, qu'est-ce que tu as compris de la vie ?
Waouh. Là, tout de suite, je te répondrai spontanément que la vie est remplie de leçons et qu'on ne cesse d'apprendre. C'est ça, la vie. C'est le sentiment, en tout cas, au moment où je te, voilà, au moment où je te, où je me raconte et où je t'exprime ce que j'ai sur le cœur, c'est que cette vie-là, elle n'est pas linéaire. Elle est remplie de chapitres et de chapitres à valider, d'étapes à valider. C'est vraiment comme le jeu vidéo, tu sais.
Mmh.
Mais que ce boss final n'existe pas. Il n'y a pas de boss final dans la vie. Il y a un apprentissage qui est constant.
Ça ne s'arrête jamais, donc ?
Ça ne s'arrête jamais. Mais c'est un apprentissage qui est extraordinaire. Parce que c'est te découvrir toi, finalement. C'est te rencontrer toi. C'est te trouver cet apaisement en toi. Aborder une espèce de sagesse qui te permettrait éventuellement, oui, d'aider les autres. D'apporter certaines réponses à un entourage, à une audience. Ce serait ça, mon idée de ce qu'est la vie.
Spiritualista. On apprend plus quand on fait des erreurs que quand on réussit en réalité.
Mais complètement. Tu sais, je suis fan de MMA, Mixed Martial Arts, donc c'est vraiment l'UFC qui est en tête de ligne sur les différentes organisations. Il y a un peu la Ligue des Champions, on va dire, du MMA. Et donc j'écoute beaucoup les interviews de ce que vont raconter les fighters. Et il n'y a pas meilleur apprentissage que dans la défaite. Mais ce n'est pas que dans le MMA, c'est aussi dans le sport, dans tous les sports. Ouais. Et dans le foot, et pas que, et dans la vie en général.
Il n'y a que chez les parachutistes que ça ne marche pas.
Ah ouais, là, c'est... là pour le coup, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper. Mais on en est là, quoi. C'est dans l'erreur que tu te projettes de la meilleure des façons. Mmh. Moi, dans mon métier sur scène, alors pour le coup, on n'est pas sur une erreur, mais il y a cette notion de dire « je ne suis pas sur scène ». Alors, tu ne vis pas l'émotion de la même façon, c'est vrai. Mais, pour te donner plus d'explications, il y a ce qu'on appelle le « show watch ». Tu as la possibilité, une fois par mois, non, pas autant, mais j'aurais voulu que ce soit une fois par mois, d'être à la place du spectateur et de regarder ta doublure faire le spectacle.
D'accord.
Il n'y a pas pour moi meilleure note. Hein, on nous donne des notes régulièrement. Oui. Tu vois, la note, c'est le resident director, donc celui qui est en charge de la qualité du spectacle avec qui tu travailles, qui vient de temps en temps te donner voilà, quelques petites notes de façon à ce que la qualité du spectacle soit...
Toujours au top.
Idem, identique et au top. Et il n'y a pas meilleure note pour moi, il n'y a pas meilleur rapport, il n'y a pas meilleur retour de mon travail qu'en étant finalement à la place du spectateur et de contempler peinture. La
tu
peinture,
changes de perception.
Voilà, contempler l'image totale dans laquelle tu es chaque soir. Parce que tu as tendance à l'oublier. On a tendance à oublier la magie dans laquelle on opère. Ouais. Parce qu'on a sa vision en...
Tu vois pas la même chose.
C'est pas la même chose.
C'est ouais.
On a ce qu'on appelle la caméra isolée, quoi, sur toi. Je sais pas le mot exact, mais c'est la caméra embarquée, quoi. Oui. T'as pas la vue drone.
Ouais, t'es subjectif.
T'es tu subjectif. Vois que... C'est la vue subjective. Ouais. Et c'est exactement ça.
T'as la GoPro sur ton front,
sur
et
le
c'est
front.
Tout, quoi.
Voilà. Et t'as des fois même pas la petite loupiote qui te permet de voir vraiment ce que tu vois sur le front. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est cet aspect de se dire... Tout comme on parlait de faire des erreurs et d'apprendre, eh bien moi, sur ces représentations-là, c'est pas l'erreur, mais tu vibres pas. Tu vibres pas de la même façon parce que tu n'es pas sur scène. Mmh. Tu es donc mis de côté, entre guillemets.
Ouais.
Mais quel apprentissage.
Ouais, c'est lourd.
Quel apprentissage. Mmh. Pour pouvoir revenir sur stage
et plus savoir prendre l'espace,
exactement comprendre plus... voilà, ce que tu projettes, où est-ce que tu peux te positionner, qu'est-ce que tu peux améliorer.
Mais là aussi, c'est hyper spirituel ce que tu nous dis. C'est un truc de ouf, Jean-Luc, ce que tu nous dis.
Là aussi encore.
Mais de dingue ! Parce qu'en fait, c'est un peu comme si, allez, la scène, c'est notre vie, c'est le quotidien, c'est ce qu'on joue au quotidien.
Yes.
Mais quand tu prends finalement ce point de vue global, qui peut être le point de vue du créateur qui regarde sa création, et que tu reviens ensuite dans la création, avec le point de vue du créateur, t'as vu, c'est autre chose.
Ah, mais bien sûr.
Mais de dingue.
Ah, ta mission
parce que t'as eu la perception du global. Tu vois, t'es plus dans ton petit ego là, voir ton point de vue.
Totalement.
Et c'est trop beau en réalité.
Totalement, on est là-dessus.
Et ouais, c'est la vision drone, regarder d'un petit peu plus haut, voir en global ce qui se passe.
Et puis se reconnecter et savoir que t'as le petit plus qui te permet de comprendre quelle est ta mission.
Et ouais.
Tu vois.
Et que tu fais surtout partie d'un tout.
Un tout. Et tu la joues pas différemment. Enfin, cette partition-là, elle est différente après.
De ouf.
Tu la joues différemment.
Grave. Non, c'est hyper, hyper beau. Mmh. J'ai vu dans une interview que tu disais que tu étais hantée par l'esprit de Mufasa.
Ah,
parce que ça fait depuis
2006-2007
qu'il vit en toi.
Il vit en moi, seul.
Voilà, que tu incarnes cet archétype dingue.
C'est vrai. Le père, le papa de Disney, quoi.
Ouais.
C'est, je crois que c'est la figure emblématique de la paternité, Mufasa. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, pardon, c'est le coupé. Père, c'est le père, ouais, c'est le père divin, c'est le père. Père.
Ouais.
Tu vois, la mère, c'est la nature, c'est Gaïa, c'est Pachamama, et lui, c'est le père.
Le
quoi.
Père, la spiritualité.
De dingue.
Ah, c'est ouf.
Charlotte, ta femme, qui est aussi une très très bonne amie, Charlotte me faisait la remarque, me disait qu'en fait, le roi lion, c'est l'histoire du Christ, de Jésus.
Mmh. Ah, il y a un lien.
Il y a des similitudes.
Il y a un lien.
Ouais. C'est,
qui serait Jésus alors? Simba?
Ben oui, ce serait Simba en fait. Ce serait Simba. Et tout à l'heure, avec ma nièce, en préparant l'interview, je regardais des petits extraits du show, tu vois, du musical sur YouTube. Et quand on a Rafiki, voilà, qui chante et qui appelle tous les animaux à venir et que le soleil se lève derrière.
Ah, ce tableau est iconique.
Mais c'est carrément le soleil. Le soleil, c'est le soleil en nous. C'est le divin en nous. C'est le Christ, tu vois. Le 25 décembre, c'est le moment de l'hiver où, oh, ça y est, les journées vont se rallonger. La lumière revient. Mmh, et donc, on retrouve un peu cette symbolique-là dans tout ce déroulé-là. Est-ce que tu penses que tes vertus personnelles ont manifesté ce rôle-là? Parce qu'il y a quand même une synchronisation des énergies. Tu vois, je pense que si t'étais un sale type, clairement, t'aurais jamais eu ce rôle.
Ah, il faut un Scar dans le Roi Lion, méfie-toi.
plus, il paraît que t'es très pote avec Scar.
Ah ouais, c'est bien sûr.
Dans ta troupe,
bon.
c'est très drôle.
Ouais, c'est mon gars, vraiment, ça aurait été différent sans lui. Mais quelqu'un d'énorme et de tellement généreux, tellement gentil dans la vie. Évidemment, il faut séparer l'artiste de l'art.
Ouais.
Donc, il met ce costume du méchant, mais quelle douceur dans la vie de tous les jours.
La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu.
Mais pour répondre à ton observation, à ta question...
Je répète, si t'avais été un sale type, est-ce que tu penses que t'aurais eu ce rôle? Est-ce que t'aurais pu l'incarner?
C'est difficile.
Aussi justement.
C'est difficile. C'est difficile parce que j'ai tellement de similarités.
Oui, t'as parlé beaucoup anglais ces derniers mois, c'est pour ça.
J'ai tellement de connexions.
De match point,
ouais. J'ai tellement de points communs avec Mufasa, dans ma vie de tous les jours, que... il y a vraiment cette idée de son esprit qui finit par vivre en moi, quoi. Parce que toutes ces années défilent depuis 2007 avec des stop and go, mais c'est extraordinaire de pouvoir à ce point être connecté avec un rôle. J'ai même commis l'irréparable et pourtant ce rôle est revenu. J'ai jamais raconté cette histoire, j'en ai déjà trop dit, donc je me lance, mais je me suis fait virer du Roi Lion.
Pourquoi?
En 2013, parce que je me suis battu avec un de mes collègues.
Oh, dingue.
En plein entracte.
Oh waouh.
Viré, blacklisté, black red list, purple list, appelle ça comme
tu veux. Dans quelle année ça?
Mais en 2013, la fameuse année 2013, tu vois, je t'en
avais
parlé
en
début
de
podcast.
Dur pour toi.
Il n'y a rien qui allait.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, une mésentente avec un de mes collègues qui m'avait mis, lui, pour le coup, sur sa blacklist, sans explication. Ça a duré un an.
Mm-hmm.
Où pendant un an, j'ai vécu une atmosphère que je ne comprenais pas, et c'est pas faute d'avoir fait le nécessaire pour essayer de comprendre. Bon, je te parle de ça il y a plus de 10 ans, tu vois.
Ouais.
Et puis vient le moment où on partage, voilà, la même loge, et ça part en bagarre, quoi. C'est animalier. C'est instinct de survie, c'était lui ou moi. On n'est que tous les deux, il n'y a personne pour nous séparer. Je t'en parle, j'en rougis de honte parce que je ne suis pas fier de ce chapitre. Mais ce chapitre qui, quelque part, m'a amené tellement de lumière par la suite.
C'est vrai.
Et je me suis dit, donc, il fallait passer par ça. Non, c'était ça, en fait, le chemin. Il fallait aller dans cette espèce de dégringolada pour reconnecter avec qui tu es.
Jean-Luc. Est-ce que tu penses que c'est vraiment, maintenant, avec le recul, 10 ans après, il y a toujours ce truc où on dit qu'il y a des colères qui sont saines. Est-ce que finalement, ce moment où tu as dit stop, parce que
j'ai explosé.
Il y avait peut-être un mauvais traitement et de l'irrespect, quelque chose de pas juste.
Complètement, complètement. Et j'ai réagi avec une espèce d'impulsion saine, j'ai presque envie de te dire, qui m'a conduit, moi, alors à tout perdre, hein, mais quelque part, ce tout perdre, c'était le coup de karcher qui me permettait, moi, de... Ça y est, en 8-7.
Ouais.
En 8-7. Mm-mm. Voilà, maintenant, t'es toi et toi.
C'est ça.
Est-ce que tu vas enfin écouter là où je veux t'amener? On est vraiment sur ce message divin.
Ouais.
J'ai eu, alors pas sur le moment. Hein. Ah, sur le moment, comme je te l'expliquais tout à l'heure.
T'as dû être dans la culpabilité.
Ou sur une fenêtre ouverte au 17e.
On a voulu parce que c'est un comportement pour toi qui n'est pas dans ta programmation.
Mais c'est pas moi.
C'est pas toi.
Mais c'est pas moi.
Alors que c'est toi.
Mais enfin, à quel moment j'ai fait toute ma scolarité et tout sans jamais avoir besoin de lever la main sur qui que ce soit.
Ouais. Alors, c'était pas toi jusqu'à ce moment-là.
Jusqu'à ce moment-là.
C'est ça qui est fou.
Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, je ne me suis pas reconnu dans ce qui était moi. Mmh. Ah ouais. Et je me suis fait très peur.
Ouais.
Donc, malgré l'irréparable, Mufasa revient, quoi.
Ouais.
Mufasa revient quelques années plus tard. Tu vois, l'opportunité à nouveau de repasser ce casting. Ouais. Donc... Pourtant, je performais déjà ce rôle pendant quelques années, mais quand je me
représente... Mais là, nouvelle énergie.
Ah ouais.
Il est thug, là.
Ah mais...
Il a une autre vibe.
Il a grandi, en tout cas.
Ouais, il a plus de contraste, il a grandi, mature.
Ah, complètement.
Et ouais.
Bonhomme. Mm. Il revient en déter.
C'est incroyable.
Mode déter. Et la porte s'ouvre.
Eh bah, bien sûr. Parce que l'énergie est juste.
Incroyable.
Franchement, c'est trop... Improbable. C'est hyper chouette, j'adore.
Il vit en moi, c'est une chanson que je chante donc chaque soir... Et c'est aussi mon point de vue, quoi.
Tu sais que t'allais dire, c'est aussi ma sonnerie de téléphone.
Tu me crois que ça l'est? Je te jure.
T'es sérieux?
Ouais, pas il vit en moi, mais en tout cas le roi lion. Je peux te montrer.
Vas-y, fais-nous écouter, si tu peux. Là, on va écouter le réveil matin de Jean-Luc Guizon.
Comment tu...
Une épopée.
Comment tu te réveilles? Ouais. T'as juste envie de rester
truc. Ça y est, ça me fait penser, genre, le livre dont vous êtes le héros, et toi, c'est la journée dont vous êtes le héros.
Exactement. Pars en mission, quoi.
C'est génial.
Déterminé, va chercher tes victoires.
Bah, merci mille fois, Jean-Luc.
Mais non, c'est moi qui te remercie.
C'était magnifique.
C'est vachement touchant.
Je suis honorée d'avoir passé... cette heure et quart, 7h20 avec le roi lion.
Mais tu rigoles, quoi.
Mon enfant intérieur est en fait enfant intérieur, et waouh.
Et ben, je suis honoré que tu sois venu jusqu'à moi.
Merci Jean-Luc.
Merci Mamel, c'est moi qui te
remercie. Gratitude pour cette interview.
Yes.
On t'embrasse fort. Spiritualista.
J'ai toujours une crainte de me raconter, tu sais, j'ai vraiment cette sensibilité de me dire est-ce que tu vas pas en dire trop? Est-ce que t'es prêt à raconter ça? Il y a toujours cet aspect, tu vois, de vulnérabilité. On n'est jamais à l'aise à être face à la vulnérabilité. Mais c'est tellement thérapeutique.
Mais partager, tu dis toujours que dans ce que tu vas dire, il y a quelqu'un de l'autre côté à qui tu vas offrir une clé. Ouais. Tu vois?
Ouais, c'est
parce qu'on a beau vivre nos vies... On a tous les mêmes, parce qu'on passe tous par les mêmes épreuves, les mêmes doutes.
Les mêmes portes, bien sûr.
La même solitude, la même vulnérabilité.
True.
Tu vois, c'est...
True.
En fait, l'humain, il est à la fois complexe et hyper simple. Et c'est ça qui est chouette. C'est pour ça que se raconter, c'est génial. C'est, tu te connectes en fait à l'autre. Tu penses que tu parles de toi-même.
Ouais, alors qu'en fait, c'est les autres que tu viens toucher.
Ouais, c'est ça.
C'est beau.